o povo é quem mais ordena. Dentro de ti há cidade. Dentro de ti há cidade.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Un podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi bien sûr sur le site Spectre, spectremedia.org, sur lequel vous pourrez retrouver de nombreux podcasts passionnants. Je vous invite d'ailleurs à soutenir Spectre, c'est un projet militant, c'est un site entièrement gratuit, sans pub. N'hésitez pas à faire connaître le site, à diffuser les podcasts dans vos réseaux, parmi vos amis, vos camarades ou vos collègues, et si vous le pouvez, à soutenir aussi financièrement ce projet. Dans ce nouvel épisode, on va continuer dans une voie initiée précédemment, à savoir donner la parole à des militants et militantes antifascistes d'hier et d'aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être que j'avais consacré un épisode à l'antifascisme dans les années 68, à partir d'un entretien avec deux militants, Alain Cyrulnik et Philippe Cyrulnik, deux frères. Plus récemment, on avait discuté avec Raphaël Arnaud, l'un des fondateurs de la Jeune Garde antifasciste et aujourd'hui député, mais aussi Mathilde Milla, militante du NPA, l'anticapitaliste et suppléante de Raphaël Arnaud. L'idée dans cette série d'épisodes, c'est de documenter en quelque sorte le militantisme antifasciste dans un contexte où il se trouve de plus en plus vilipendé et criminalisé. S'il y a eu, après la Seconde Guerre mondiale, une sorte de consensus antifasciste qui faisait du fascisme une menace mortelle pour la démocratie et qui a empêché pendant un certain temps l'extrême droite d'apparaître comme une force normale ou respectable, ce consensus, qui a duré bon an mal an jusqu'aux années 80, 90, voire 2000, aujourd'hui n'existe plus et les choses se sont retournées de manière radicale. Ce n'est pas simplement que les antifascistes sont mis médiatiquement et politiquement sur le même plan que les fascistes. En réalité, l'extrême droite institutionnelle a pignon sur rue dans la sphère politique et médiatique, là où les antifascistes sont à peu près inexistants dans les médias et là où leur combat est traîné en général dans la boue au nom de la prétendue violence dont ils se rendraient coupables. Donc aujourd'hui, on va continuer dans cette voie en rencontrant des militants antifascistes du comité Antifa de Saint-Étienne et en s'arrêtant notamment sur leur parcours, sur leurs pratiques militantes et sur leurs stratégies. Voilà, donc qui sont ces antifascistes? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je vais les laisser peut-être se présenter pour commencer. Donc, ils sont trois autour de la table.
Eh ben, salut. Donc, du coup, moi, c'est Eddy. Je suis du comité Antifa de Saint-Étienne depuis le début.
Et le début, c'est?
Le début, c'est, je dirais, c'est 2010, à peu près.
Bah, du coup, moi, c'est Thomas. Je suis au comité depuis 3 ans. Je suis un des derniers arrivés, quasiment.
Et moi, c'est Vincent. Et pour le coup, je suis aussi au comité à peu près depuis le début, depuis sa création.
Est-ce que du coup l'un de vous trois pourrait me raconter justement les conditions dans lesquelles le comité Antifa a été créé, peut-être pour faire quoi au départ, et après on reviendra sur ce que vous faites aujourd'hui et comment ça a pu évoluer aussi, mais au départ, donc vers 2010, pourquoi vous créez le comité Antifa à Saint-Étienne?
En gros, le comité, nous, déjà il y a une singularité un peu qui est faite à Saint-Étienne, c'est qu'on a un vivier militant, associatif, syndical qui est quand même assez énorme. Et on a des militants, on va dire, de tous bords politiques, bon, dans la gauche radicale, mais on a une certaine effervescence militante avec des jeunes communistes d'où on vient, en tout cas avec Vincent, assez puissants et qui sont très implantés à la fac et dans les lycées. On a des groupes ANAR, un peu plus anciens, en tout cas qui ont un local. Il y a un local autogéré qui s'appelle La Gueule Noire, etc. On a un stade aussi où il y a quand même
Geoffroy Guichard,
voilà, où il y a une des deux tribunes qui, en tout cas, a mis en avant la question de l'antiracisme et pas que. Donc voilà, on a quand même un climat assez favorable à la non-implantation de l'extrême droite. Et en 2010, ce qui pose la question de la création du comité Antifa, c'est la potentielle création de la jeunesse. Du FN à ce moment-là. Donc on a une section FN Loire qui veut se créer à ce moment-là. Et on a notamment quelques pointures du FN, mais on va dire la branche radicale du FN, si tant est que les autres branches ne le sont pas. Mais en tout cas, il y a Gabriac qui vient à Saint-Étienne.
Qui lui se réclame assez explicitement de Mussolini. C'est ce sens-là qu'on parle de lui à l'époque comme la branche radicale, effectivement. D'ailleurs, il va être exclu, je crois.
Il va être exclu pour les saluts nazis. Et puis c'est surtout qu'en plus, à cette époque-là, il fait partie quand même des têtes un peu montantes de la jeunesse du FN, puisque du coup, il est conseiller régional, je crois. Et voilà, il a quand même une certaine implantation. Et puis il a un nom. Voilà, à l'extrême droite, il a un nom quand même. Et du coup, à ce moment-là, ils essaient de créer la section FN Jeunes. Et c'est là où on se dit, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit présent dans la rue, etc. Parce que pour nous, c'est quand même assez symbolique qu'ils veuillent le faire, surtout que les locaux du Front National, à ce moment-là, on apprend qu'ils sont dans une des rues complètement centrales à Saint-Etienne. Et c'est comme ça que se crée le comité Antifa, sur un peu ce rassemblement de réseaux un peu officieux, qui se rencontre de manière régulière, et puis là, qui fait sa première action en 2010-2011, pour chasser justement le FN. C'est un 11 novembre, le 11 novembre 2010 ou le 11 novembre 2011, je ne me rappelle plus. Et puis après, ça s'installe, puisque du coup, on a Saint-Etienne devient un peu le village des irréductibles gaulois, pour reprendre cette métaphore, mais à notre sens, puisque du coup, on est quand même en plein milieu de la région Rhône-Alpes, on n'est pas très loin de Lyon, qui est un peu la capitale fasciste à cette époque-là.
Oui, où il y a plusieurs groupuscules, notamment Action Française, Identitaire et Nationaliste Révolutionnaire, enfin, ce qui se fait appeler comme tel, mais néo-nazi, quoi.
Ouais, tout à fait, et puis où là, à ce moment-là, du coup, on a vraiment un assaut un peu du FN dessus, sur Saint-Etienne aussi, où du coup, on se retrouve avec beaucoup de pontes qui essaient de venir, notamment Jean-Marie Le Pen. Et là, je crois qu'on a la première grosse mobilisation qu'on fait en 2012, il me semble, contre la venue de Jean-Marie Le Pen à Saint-Etienne, et qui a un énorme succès. Et c'est vraiment la première fois, en tout cas, qu'on sort le logo du comité, qu'on apparaît en tant que comité antifasciste. Voilà, alors sachant qu'on a tous des doubles affiliations et tout ça. Mais voilà, ça, c'est vraiment l'essence de la naissance du comité. C'est le regroupement de tous les réseaux par rapport à des événements précis, donc en réaction par rapport à un événement qui allait se passer à Saint-Etienne.
Et c'est intéressant parce que dès le départ, ce que je comprends, c'est qu'il y a des militants et des militantes de différentes sensibilités, plus ou moins radicales ou plus ou moins institutionnelles peut-être. Toi, tu viens plutôt de la JC, de la Jeunesse Communiste, donc liée au Parti Communiste, qui est un parti qui a une présence dans les institutions, qui tient des villes, etc. Donc c'est évidemment une autre tradition que la tradition ANAR, etc. Et vous arrivez dès le départ à faire cohabiter donc des sensibilités et des militants qui viennent de ces différents courants, quoi.
C'est ça, en fait. Ouais, c'est que... Alors après, je pense que la toute petite subtilité, c'est que, par exemple, la Jeunesse Communiste de la Loire est quand même reconnue pour être une jeunesse communiste révolutionnaire. Donc déjà, c'est quand même un peu une petite nuance par rapport à la question du PC. C'est qu'il y a quand même une forme de rupture par rapport à ce qui est porté à cette époque-là, où on sort en plus de l'époque Robert-Rue et tout ça, où c'est un peu compliqué quand même au PC à ce moment-là.
Et la campagne de Marie-Georges Buffet en 2007 n'était pas particulièrement radicale, voilà, et vous n'avez pas exactement cette ligne-là.
Voilà, exactement. Donc du coup, on est quand même une JC très implantée, révolutionnaire, on se dit marxiste-léniniste à l'époque, etc. Donc il y a vraiment des fondements un peu... Il y a des rapprochements idéologiques beaucoup plus faciles avec des groupes qui s'en revendiquent pas. Et puis, qui sont pas forcément communistes. Et puis c'est surtout que, encore une fois, à Saint-Étienne, je pense qu'il y a la culture vraiment politique qui est installée depuis... Moi, pendant des années, j'ai cru que c'était nous qui avons créé ça en 2010. Et en fait, on a parlé à des historiens qui connaissent un peu Saint-Étienne et qui nous ont dit « mais pas du tout, Saint-Étienne, il y a vraiment cette culture-là ». Du commun, en fait, du commun collectif. On a une CGT qui a été très tendance anar pendant une période. On a eu des anars qui ont bossé avec la CGT. Enfin voilà, il y a vraiment un vrai truc et on va dire que le terreau est là et il est possible. Pour vulgariser un peu les choses, le mardi, t'allais faire de la boxe chez les anars. Le vendredi, t'allais faire une soirée à la JC et le samedi, t'allais au stade chez les Greens. C'est bête, c'est vachement caricaturé. Mais en tout cas, on était un peu dans cet esprit-là. Donc en fait, le fait de se réunir et d'avoir cette construction-là et cette volonté commune, ça existait déjà. Enfin, ça, c'était possible, le terreau était là, quoi.
Et alors, je me tourne vers vous plus individuellement, en fait, sur vos raisons propres d'avoir commencé à militer. Moi, je trouve que c'est important de donner à voir ces parcours vers le militantisme et les raisons pour lesquelles on se met à militer à un moment donné de sa vie, parfois jeune, parfois moins jeune. Est-ce que chacun d'entre vous pourrait dire ce qui l'a amené à un moment donné à prendre le virage du militantisme, alors soit dans le cadre du comité Antifa, soit dans d'autres cadres, puis dans le comité Antifa, mais peut-être Vincent ?
Bah, je viens d'une famille qui a toujours été assez sensible aux questions politiques, plutôt de gauche et tout ça, sans rentrer dans le cliché, mais c'est des intermittents, et voilà. Et en fait, donc depuis vraiment gamin, j'ai toujours été assez sensible à ces questions-là. J'ai fait mon premier blocus du collège en quatrième pour le CPE. Voilà, donc,
en 2006, ouais.
Ouais, voilà, donc c'était ma première peut-être expérience vraiment militante à ce moment-là, quoi. Et puis, ben, c'est ça, arrivé au lycée, les premiers mouvements sociaux, je me suis rapidement impliqué dans les mouvements sociaux, les blocus aussi du lycée et tout ça, les manifestations. Et puis, bah, je vais petit à petit rencontrer des gens qui sont à la JC, qui est en train de se remonter à Saint-Étienne, qui a traversé une période assez difficile les années précédentes, qui était quasiment dissoute, qui était en train, voilà, depuis un ou deux ans, je crois, si je dis pas de bêtises, qui était en train de se remonter. Et donc, du coup, bah, je vais rejoindre la jeunesse communiste. Et il va y avoir un peu une effervescence sur ces années-là, là, quand on va la rejoindre. On va être assez nombreux à arriver, beaucoup de lycéens, donc beaucoup de jeunes, quoi, et très actifs. Donc du coup, on va avoir un espace militant assez important à Saint-Étienne, qui heureusement dure encore aujourd'hui aussi. C'est ça qui m'a rapproché, on va dire, des mouvements politiques. du militantisme. Et après, l'antifascisme, ça coulait déjà de source pour moi, en fait, du moment, enfin, même avant que je rentre à la JC, ça a toujours été un combat, une sensibilité que j'ai eue. On va dire qu'effectivement, comme l'expliquait Eddy, il y a toute cette période en 2010 là, où le FN essaye de s'implanter, les jeunes du FN aussi. Mais effectivement, moi, je vais avoir vraiment cette attitude de réaction, pour le coup, de réaction antifasciste. Là, on doit concrétiser quelque chose avec le comité antifasciste, mais qui est plus dans de la réaction. Ce qui fait que j'ai pas toujours été très très actif dans le comité en tant que tel, parce que à ce moment-là, j'étais encore pas mal actif à la JC, j'avais pas mal de responsabilités aussi. Mais ce qui fait que je vais toujours être assez présent pour le comité aussi, notamment dans tout ce qui est la réaction, même si plus le temps passe, plus on se rend compte qu'aussi l'antifascisme, c'est pas juste de la réaction, c'est aussi c'est culturel, il y a plein de choses intéressantes à développer là-dedans. Et que ça se base sur un combat qui est l'anticapitalisme et que ça va de pair, quoi.
On voit bien le lien entre le combat plutôt défensif, qui est le combat antifasciste, même s'il n'est pas que défensif, et le combat pour l'émancipation un peu plus générale, qui est lié, de toute façon, après, il y a 1000 définitions du communisme, en tout cas, et plein de gens qui peuvent se réclamer du communisme, mais l'idée d'une alternative à ce monde injuste, hiérarchique, inégalitaire, etc. Et on voit bien dans votre militantisme comment se connecte l'engagement à la JC, pour le communisme, etc., et puis un engagement antifasciste contre l'extrême droite, etc. Donc les deux sont pas connectés. Et je trouve qu'on voit aussi comment des moments d'effervescence sociale et politique, je pense que le milieu des années 2000, avec le mouvement contre le CPE notamment, a été important, mais après il y a eu aussi d'autres mouvements dans la suite, il y a eu aussi le mouvement un peu altermondialiste dans ces années-là, encore d'autres mouvements étudiants en 2007, en 2009, il y a le mouvement contre la réforme des retraites en 2010, et tout ça a été un peu un bain dans lequel se sont formés pas mal de gens, pas mal de gens sont rentrés dans le militantisme à ce moment-là, et que ça a des effets durables, puisque une partie de la génération qui est militante aujourd'hui est aussi produit de cette période du CPE ou des mouvements de ces années-là, quoi. Toi, Thomas, t'as une trajectoire similaire d'un point de vue militant ou c'est différent ?
Alors, pas du tout, moi, du coup. Pas du tout d'AJC. Et on va dire qu'il n'y a pas grand-chose qui m'orientait vers le militantisme à la base. Moi, je viens d'un milieu très prolétaire à Saint-Étienne. Mes parents, c'était plus une espèce de petite droite prolétaire en mode il faut protéger les patrons, c'est ceux qui donnent du travail. Avec, on va dire, un petit racisme ordinaire de on côtoie tout le monde, mais c'est quand même toujours un peu les mêmes qui foutent le bordel. Donc j'ai un peu été élevé dans ce truc-là. Et pas du tout politisé, ça parlait assez peu de politique chez moi. Et j'ai traversé les mouvements sociaux, j'ai fait des blocus au lycée, à la fac, etc. Mais vraiment de loin, en mode c'est pas pour moi, je voyais ça un peu de façon assez folklorique, je participais à des manifs, mais en plus pour sauter les cours qu'autre chose, quoi. Et moi, je me suis présenté à Saint-Étienne dans le milieu culturel, associatif. Comme on l'a dit, Saint-Étienne, c'est quand même tout petit, donc tout est un peu lié, donc les organisations politiques sont quand même très liées aussi aux organisations culturelles. Et je me suis retrouvé, c'est le milieu culturel, donc forcément avec beaucoup de gens de gauche, et je me suis retrouvé un peu... En gros, j'avais pas les refs, j'avais pas le bagage politique, donc moi j'étais un peu en dehors de ça, et j'étais, on va dire, de gauche, mais sans vraiment savoir pourquoi, quoi. Et c'est beaucoup plus tard, c'est plus autour de 30 ans, il y a eu les gilets jaunes, etc., qui m'ont un peu mis un peu dans le bain plus radical de participer à des manifs un peu plus activement, mais pareil, plus solo. Et en fait, c'est plus, c'est plus le volet féminisme, violence sexuelle qui m'ont mis dedans, parce qu'au final, il y a eu ça dans mon entourage. Et je me suis rendu compte que tous les gens qui avaient des grands discours, qui se disaient touche de gauche, qui avaient lu les bons auteurs, etc., quand ça s'est passé dans mon cercle d'amis, quoi, personne n'a vraiment bougé, ça a été esquivé et tout. Et du coup, il y avait un peu une prise de conscience de « Ok, je me sentais un peu dans un milieu privilégié, on avait à peu près tous les mêmes idées, on était un peu protégés de ça, et qu'en fait, ces gens-là font pas grand-chose. » Et du coup, il y a eu l'envie de rentrer dans quelque chose de plus actif, de plus radical. Donc ouais, ça a été une espèce de concordance entre ça, un petit peu passif des gilets jaunes qui m'a un peu mis dedans, un peu mis des contacts avec des gens, le sport de combat aussi, mine de rien, qui m'a aussi amené dans ces milieux-là. Et l'antifascisme, c'était le milieu qui me paraissait le plus accessible, parce que comme je le disais, j'avais pas forcément les bagages, je me sentais pas forcément à l'aise à rentrer dans un parti, vraiment dire militant d'un parti quel qu'il soit, c'était bizarre pour moi. Et l'antifascisme, ça paraissait quelque chose un peu au cœur de plein de luttes qui me tenaient à cœur. On parle du féminisme, de l'écologie, de l'antiracisme. Et ça paraissait quelque chose d'accessible. Ça l'a été concrètement parce que je me suis retrouvé dans un groupe où effectivement il y avait plein de gens différents, à plein de niveaux de militantisme différents, où on ne faisait pas des concours de lecture de bouquins politiques. Et bah, c'est ça qui m'a mis à l'aise et qui m'a poussé à continuer, ce qui n'a pas forcément été le cas dans d'autres groupes que j'ai pu voir après, où je pense que si on est néo-militant très tard, il y a un peu ce côté-là où ok, en fait, c'est pas pour nous, quoi.
Je voulais juste rajouter un tout petit truc sur... Eddy a déjà un peu dit ça, mais je voulais rappuyer là-dessus sur le fait que moi par exemple m'a beaucoup plu assez rapidement dans le comité antifasciste, c'est le fait que à Saint-Thé on a un terreau qui fait que les luttes militantes elles sont assez variées et il y a pas, enfin voilà, plein de gens viennent de luttes différentes, bah même pas, comme le disait Thomas, il y a des gens aussi qui n'étaient pas forcément impliqués dans la politique avant ça, enfin voilà, ça, il y a plein de, il y a une effervescence, enfin tu as un peu utilisé ce mot là. Et aussi, ce qui est assez plaisant là-dedans, je trouve, c'est au final, être communiste aujourd'hui, c'est quand même... on est souvent... Enfin, moi, j'ai été assez surpris rapidement en militant qu'on est très vite énormément stigmatisé, bah, de par l'histoire du communisme et de par plein de choses, de simple fait qu'on est de gauche et qu'on est révolutionnaire. Et les anarchistes subissent la même stigmatisation, les antifas la même stigmatisation, mais en tout cas, le fait... qu'on soit pas tous d'accord au sein de ce mouvement-là, mais qu'en fait, justement, on arrive à soutenir et qu'on rentre pas dans le jeu de la stigmatisation de ces groupes-là et qu'en fait, on fait front ensemble, même si on n'est pas tout à fait d'accord sur du fond politique. En fait, c'était vachement, ça fait vachement de bien, ça encourage vachement à avancer, de pas être dans un entre-soi avec toujours son même groupe et les militants qui pensent la même chose. Enfin, voilà.
Ouais, l'antifascisme, c'est pas juste défensif comme une réponse un peu autodéfense, etc. On voit bien comment c'est aussi un peu un ciment pour des luttes qui sont très variées. Ne serait-ce que parce que les fascistes détestent tout le monde. Ils détestent les minorités, les immigrés, évidemment, mais ils détestent les féministes, les antiracistes, même les écolos radicaux, les antinucléaires, les anticapitalistes, évidemment, les syndicalistes. Et donc, d'une certaine manière, le défi pour la gauche et pour l'antifascisme, c'est d'arriver à coaliser tous ceux et toutes celles qui... sont et seront en quelque sorte ou potentiellement les victimes et le sont déjà pour une partie d'entre eux du fascisme en quelque sorte ou de l'extrême droite quand elle est au pouvoir ou quand elle cherche à arriver au pouvoir. Et Eddy, alors toi, peut-être ton parcours vers la JC et l'antifascisme.
Moi, je suis issu d'une famille pour le coup assez militante, donc par mon père et ma mère, surtout par mon père. Ma mère a été militante syndicale, mais c'est surtout mon père qui a énormément milité. Donc moi, je suis d'origine algérienne, donc ça a un impact très fort quand même dans la famille, puisque je suis petit-fils d'une grand-mère et d'un grand-père qui ont eu 12 enfants. Et puis il y a vraiment eu lit dans l'histoire de mon grand-père. Mon grand-père a combattu pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, a une histoire très particulière, assez héroïque un peu, donc sur s'est évadé de prison plusieurs fois, etc. Et puis après, a pris le parti de l'Algérie, comme beaucoup d'Algériens. Donc a été au FLN en France pour le coup juste après. Et en fait, il y a eu cette injustice là qui a été marquée, puisque du coup ses pensions d'anciens militaires ont été gelées. Mon père, alors qu'a été le premier des enfants nés en métropole, a été reconnu français que très tardivement, et je crois même que c'est qu'à ma naissance que vraiment ça a été ok, c'est bon, il est vraiment français alors qu'il est né ici. Et il y a eu cette injustice là qui a été très forte, et du coup cette dimension antiraciste qui a été extrêmement élevée chez moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis assez jeune, un peu comme Vincent, à peut-être une année d'écart, un ou deux ans d'écart. Quand je suis arrivé en seconde, nous, j'avais envie de faire quelque chose, j'avais envie de militer, de poursuivre un peu ce qui se passait, ce que j'entendais, parce que j'ai toujours été nourri politiquement. Et en fait, j'avais envie d'aller de militer. Et le seul espace qui existait de jeunes, pour le coup, donc où il y avait un truc de socialisation, en fait, parce que moi, je suis pas arrivé, et je pense que Vincent, c'est pareil, on n'est pas arrivé à la JC parce qu'on était des marxistes convaincus.
Bien sûr.
On arrive à la JC parce qu'on a 15 ans, il y a un groupe de jeunes qui se bouge, du coup, on va les rejoindre, c'est stylé, il y a des blocages de lycée, etc. Moi, la question principale qui m'animait, il y en avait deux, c'était la question de la Palestine, qui était un peu, à ce moment-là, une sensibilité très particulière, et la deuxième, c'était, pour le coup, la question de l'antifascisme. Et du coup, moi, je suis rentré à la JC comme ça. Et en 2009-2010, puis je pense qu'à partir... En 2009. Et puis à partir de ce moment-là, il y a vraiment la question des lectures qui vient, etc. Et puis à l'époque, je pense que, pour le dire très clairement, on est cons. Hein. Enfin, en 2009, tu rentres dans une structure politique, la jeunesse communiste, etc., avec tout le folklore que ça peut dégager, que ça peut amener. Il y a toute une période où on est un peu débile, je pense, et puis on est très sectaire un peu. Mais en même temps, on est très nombreux. Et en même temps, on est presque tout seul de notre âge. On est aussi présent à la fac. On est là, on a vraiment une grosse structure de la JC. Et je pense que le fait d'être un peu bête et de faire des erreurs à ce moment-là, ça nous a justement appris à regarder différemment un peu sur le reste de notre parcours militant.
Mais c'est quoi les erreurs? Un peu c'est le sectarisme, tu veux?
Ouais, c'est ça, c'est d'être vraiment sur le côté organisation de masse, c'est-à-dire qu'on voulait à tout prix que tout le monde rentre à la JC. Enfin, c'était notre objectif, c'était de faire le plus de cartes, quoi. Qu'il y ait vraiment, qu'on crée la commune de Saint-Étienne, et que ce soit la JC qui soit devant, quoi. Mais non, c'est plus ça l'erreur. C'est, je pense, d'avoir eu ce repli un peu identitaire politique, on va dire, sur la JC, qui nous a créé, du coup, paradoxalement, une certaine ouverture après, puisque... au contraire, là, très vite, on a aussi rencontré d'autres personnes, d'autres groupes qui existaient à Saint-Étienne. Très vite, on a été aussi assez empris un peu de l'univers stéphanois. Et c'est comme ça que le comité naît 2 à 3 ans plus tard, et avec ce regroupement un peu là de réseau, comme ce que je disais. Et puis moi, du coup, je suis resté au comité pendant longtemps. Et je suis resté très animé, notamment par cette question un peu d'unité qu'on construisait. Ce que disait Vincent tout à l'heure, moi, ça me parle énormément sur le côté... En fait, à partir du moment, et je pense que c'est le consensus un peu à Saint-Étienne, à partir du moment où on regarde dans la même direction, bon, en fait, les 5%, on sera pas d'accord. Le jour où on se mettra sur la gueule pour parler de ces 5%, c'est qu'on aura déjà gagné pas mal de choses avant, quand même. Et je pense que ce truc-là, on se l'est quand même assez souvent dit, et c'est ce qui fait qu'on a réussi à avoir une position collective de groupe qui soit tenu par ça un peu, par cet équilibre-là. Et je pense que cette position-là, on l'a à Saint-Étienne, mais en fait, on l'a aussi ailleurs, on l'a aussi nationalement. Nationalement, je pense que le comité, il est quand même reconnu, modestement, enfin, je le dis sans... mais il est reconnu comme étant un peu le groupe trait d'union. Donc c'est vrai qu'on a l'initiative de pas mal de communiqués nationaux où on a fait signer des groupes qui ne s'entendaient pas. Et je pense qu'on est reconnu un peu à travers ça. Et pour nous, c'est quand même... Sincèrement, je pense que c'est la spécificité stéphanoise, mais c'est un peu la part la plus importante de notre mouvement, c'est d'arriver à, ouais, ça, à relier les gens, à faire trait d'union un peu entre des groupes qui ne s'entendent pas, et arriver à construire ce truc-là pour dire, en fait, nous, ce qu'on a réussi à créer à Saint-Étienne, alors évidemment, on n'a pas la même extrême droite qu'ailleurs, évidemment, on n'a pas les mêmes. On n'est pas à Paris, donc on n'est pas non plus. Il y a des agendas politiques particuliers, des personnalités politiques qui font que c'est compliqué et cloisonné. Mais en tout cas, nous, on arrive à fonctionner collectivement, même si on n'est pas d'accord. Et, enfin, on n'est pas d'accord sur tout. En vrai, on est d'accord sur quasi tout, quoi. Et bref, et ça, pour moi, c'était important. Et voilà, en tout cas, moi, où j'étais, voilà comment je suis arrivé un peu là-dessus. Qu'après une grosse époque à la JC, où je suis resté à la JC jusqu'à très tard, je fais partie aussi de ceux qui ont créé les brigades de solidarité à Saint-Étienne en 2020.
Ouais, Covid, ouais, pendant le confinement.
Pendant le confinement, où du coup on a créé des brigades de solidarité, donc du coup on s'est rendu très actif. Je pense qu'aussi là, moi personnellement, et puis je pense que c'est pour Vincent aussi, on a pris une claque un peu d'humilité sur le fait que changer la société c'était aussi aller un peu dans le concret sur certains aspects. Et je pense que d'arriver sur ce concret là, on s'est dit bon, ok. Bref, et du coup après, et là plus tard d'autres ambitions, mais qui sont un peu hors comité, mais sur l'idée d'arriver à reprendre la ville, sur tout ce qu'on a construit en fait, comment on arrive aujourd'hui à.
On va en parler.
Voilà, à aller un peu plus loin. Mais...
Peut-être d'abord sur le comité lui-même et son militantisme, en fait, justement, sur un peu les pratiques, qu'est-ce que vous faites. Alors, c'est vrai que c'est particulier par rapport à Lyon, pour ceux et celles qui ont écouté l'épisode avec Raphaël Arnaud et Mathilde Milla, mais eux, ils avaient affaire avec une extrême droite violente et pas si groupusculaire à Lyon, en tout cas qui était numériquement importante et face à laquelle il fallait riposter, réagir, etc. Vous, c'est une configuration un peu différente. Et du coup, qu'est-ce que fait le comité localement? Et puis il y a eu toute une nouvelle séquence de lutte qui s'est ouverte notamment en 2016 avec la loi travail. Qu'est-ce que ça a été? Alors ça a peut-être été faire le trait d'union entre différents secteurs de lutte, mais je sais pas, en gros, qu'est-ce que fait le comité d'un point de vue militant?
Moi, je veux bien parler de 2016 parce que c'est un point important. Je pense que Vincent complétera et puis peut-être après Thomas, toi aussi tes choses sur une période plus récente. 2016, pour nous, c'est un vrai tournant majeur à Saint-Étienne. Il y a un vrai, il y a quelque chose qui se passe à Saint-Étienne à ce moment-là. En 2016, on a on va dire pas mal de personnes qui déboulent à Saint-Étienne et qui sont plus, pour le coup, à tendance, on va dire plus autonome. Enfin, si on veut le vulgariser un peu de cette manière-là. Et on a des groupes qui ont envie de passer sur des mobilisations beaucoup plus actives et des manifestations en tout cas beaucoup plus animées, beaucoup plus offensives, sur des actions très concrètes, chose qui était quand même relativement inédite à Saint-Étienne et qui n'était pas arrivée depuis que le préfet était mort pendant la commune de Saint-Étienne, donc depuis 250 ans. Non, et ça c'est la petite nouveauté qui arrive en 2016. La JC à ce moment-là est particulièrement hégémonique quand même en 2016, c'est-à-dire qu'on est vraiment à la tête des mobilisations, on est vraiment à l'initiative sur pas mal de lycées, etc. La JC, et pas que la JC, il y a la CNT aussi qui est assez costaude, où il y a pas mal de jeunes et tout ça qui sont dedans. Et du coup, on a le cortège de tête. Et à ce moment-là, s'ensuit une sorte de configuration très particulière où on a un collectif un peu de ces personnes-là qui avaient envie de faire des choses un peu différemment. Du coup, il y a ce collectif-là qui se réunit, qui réfléchit à des actions. Et puis nous, on est quelques-uns de l'AGC à ce moment-là à faire le trait d'union avec la CGT pour le coup. Et du coup, on se retrouve un peu à se culer entre deux chaises, à faire le pont entre les deux. Mais on arrive à faire des actions de fou et qui, pour le coup, la CGT, elle prend ses responsabilités, elle soutient, etc. Et puis voilà, c'était d'un côté dire « Allez, faut y aller », et de l'autre côté dire « Oula, tranquille, on peut pas tout faire ». Et voilà. Et en fait, on arrive à avoir des actions ultra symboliques et ultra fortes. On arrive à monter un mur devant la préfecture de la Loire en pleine manifestation, où on se balade avec un camion qui est caché, où il y a des moellons dedans, du mortier, etc. On fait un grand mur, les flics s'en aperçoivent pas, on se fait gaz à ce moment-là, et on a une vague de procès qui atterrit. Quelques temps après, on envahit la permanence du député en place, député PS, qui était gagnère et qui se retrouve après macroniste. Et en gros, on met une banderole à la fenêtre de sa permanence. Et en fait, c'est pareil, là, on a une répression terrible pour les quatre camarades qui étaient présents, plus un camarade qui était devant et qui s'est fait attrapé par les flics et qui du coup s'est défendu. Mais voilà. Et là, en fait, on a une répression vraiment qui est terrible. Et je crois qu'on a 20 ou 25 procès, alors qu'on est sur une ville où il n'y a pas du tout la même radicalité qu'à Rennes, à Nantes ou ailleurs, etc. Et en fait, là, on s'aperçoit quand même que cette sévérité, elle est aussi posée parce qu'il y a quand même un risque de ce qui est en train de se passer. Moi, je l'ai traduit comme ça. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais en tout cas, entre des syndicats, des totos, des anards, des cocos, etc., qui sont tous ensemble, etc., ça pue quand même, quoi. Et après 2016, justement, c'est là où il y a plein de petits collectifs qui commencent à partir et qui s'installent et où il y a une autre dynamique, en tout cas, hors un peu plus groupe institutionnel type JC, CGT, etc., qui commence à s'installer et où il commence vraiment à y avoir un vrai milieu autonome ou anarchiste ou autre associatif, un peu tout ça. Et voilà, c'est un peu 2016, c'est ce truc-là. Et le comité est vraiment assez moteur puisque du coup, il est un peu au milieu, il est au carrefour un peu de tout ça. Et donc, du coup, forcément, il est complètement interconnecté. Et je pense que le comité, pour le coup, est plutôt apprécié dans le milieu de manière un peu large, quoi. Et les gens, ils mettent l'étiquette qu'ils veulent au comité. Il y a des gens qui pensent que c'est peut-être trop coco, des gens qui pensent que c'est peut-être trop anard. Mais bon, du coup, ça veut dire que ça a du sens. Et voilà où un peu se situe le comité, en tout cas jusqu'à 2020, 2021, quoi.
Et pour vous, Vincent et Thomas, vous voulez ajouter des choses sur les pratiques ou sur, parmi ce que vous faites? Il y a eu, autour des brigades populaires, vous avez fait un documentaire. Peut-être ça vaut la peine de raconter pourquoi vous l'avez fait en tant que militant, en tout cas du comité, et pourquoi c'était important pour vous de peut-être documenter ce que vous aviez fait, garder une trace pour le faire circuler en quelque sorte.
C'est exactement ça. On a les brigades de solidarité, elles se montent justement avec, à Saint-Étienne, en tout cas c'est l'AJC et le comité Antifa qui vont être à l'initiative de la création des brigades. Et puis du coup ça prend quand même un peu comme une traînée de poudre un peu partout en France. Il y en a aussi en Italie. En Italie ça avait été créé avant le Covid. C'était pour suite au tremblement de terre qu'il y a eu, je sais plus en quelle année, quelques années plus tôt. Bref, en tout cas, vu que ça s'est mis à être assez efficace et qu'elles se sont très vite interconnectées, en tout cas par les réseaux, hein, pas forcément physiquement, mais justement par les réseaux, ça a commencé à faire du lien entre les différentes brigades. Et en fait, on s'est dit, c'est quand même assez inédit ce qui est en train de se passer. On voit la vitesse à laquelle va le monde aussi. Et qu'en fait, et en plus, moi, je trouve qu'on en a un peu la preuve aujourd'hui que le Covid, c'est quand même, on a l'impression que c'est quand même déjà très loin derrière nous, alors que c'était une période vraiment assez inédite, quoi. Et que du coup, on s'est dit, on a envie de marquer le coup, que l'expérience militante qui est en train d'arriver, elle est intéressante, que mine de rien, en fait, les autres brigades qui étaient en France, il y en a beaucoup qui étaient aussi, c'était des groupes antifa qui étaient à l'initiative. Et du coup, on s'est dit, allez, c'est parti, on prend une caméra et on va les rencontrer. On n'avait pas écrit de scénario pour le documentaire. Enfin, on savait pas vraiment si on allait faire un film, en fait. On a pris une caméra, un micro, et puis on s'est dit, on va aller filmer, on va voir ce que ça donne. Puis finalement, on a eu assez de matière pour en faire un film.
Et justement, tu parlais, toi, Eddy, de la séquence qui s'ouvre en 2016 et la séquence nouvelle. Est-ce que, justement, vous venez d'une génération militante un peu antérieure, 2006, 2008, 2009, 2010? Est-ce que ça a été facile de connecter ça avec des gens qui se sont mis à militer justement en 2016, 2018, plus tard même pour, dans le cas par exemple de Thomas? Est-ce que le comité reste vachement ancré dans une génération plus celle des fondateurs en quelque sorte, ou est-ce que vous avez réussi à renouveler progressivement le mouvement, à faire participer des gens qui n'ont pas forcément les mêmes références politiques, culturelles, parce qu'ils sont plus jeunes, enfin tout simplement? Ou est-ce que ça reste un défi pour le comité de se renouveler en permanence? C'est important dans un groupe politique de ne pas rester uniquement les fondateurs ou ceux du départ.
Je pense que le renouvellement au comité, il a été tardif. Ça a été compliqué un peu la question du renouvellement parce que En fait, nous, on n'a pas une présence de l'extrême droite au quotidien. Donc, on a été beaucoup un comité de vigilance et de réaction. Donc, ça aussi, ça a fait que le comité, il a été plus ou moins, pas en sommeil, c'est pas le bon terme, mais actif que sur des petites périodes, des temps courts de l'année et tout ça. Et après, le fait que nous, on avait un autre militantisme à côté faisait qu'on n'avait pas une... On avait une présence assidue forcément dans la rue sur d'autres aspects. Donc, du coup, on était forcément militants sur différentes thématiques à Saint-Étienne et le comité existait, on va dire, à travers les actions des autres groupes. Et en fait, un peu plus tardivement, en 2016, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, je pense, de la claque qu'on a assez pris assez vite quand même sur le côté très, très sectaire qu'on pouvait avoir à l'époque à la JC. C'est que je pense que quand on arrive en 2016, l'organisation JC dans laquelle on était à l'époque, on l'a vachement mise de côté pour mettre à profit le réseau, enfin pour mettre en avant justement la question du réseau qui se créait et qui se dynamisait, qui pour nous était beaucoup plus important que l'organisation politique dans laquelle on était et qu'on visualisait comme étant un outil. Et je pense que pour le coup, c'est là où ça a servi entre guillemets aussi à la question du comité, puisque le comité il a renforcé aussi un peu cette assise-là. Et il y a des gens qui ont commencé à s'intéresser, il y a des gens qui ont gravité autour du comité. Mais je pense que le vrai renouvellement du comité, il arrive déjà sur l'action des brigades pendant le Covid, en gros, pendant le confinement, où du coup on a quand même une activité très forte, donc avec plein de gens, et on a une certaine audience quand même à Saint-Étienne. Donc on se retrouve avec des actions de solidarité, donc en plus la question de la solidarité qui est quand même un élément assez important à Saint-Étienne.
Ouais, un moment en plus où l'État est vraiment défaillant sous plein d'aspects, ouais, avec des personnes qui se retrouvent hyper isolées, voilà.
Complètement. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que nous, à notre petite échelle, c'est facile de faire plus que l'État en fait à ce moment-là. Donc du coup, c'est à quel point il y avait un problème. Et puis, il y a vraiment un vrai renouvellement. Donc là, c'est la période où arrive Thomas et je le laisserai expliquer un peu plus. Mais après, en 2021, je dirais 2020, 2021, 2022, où là, il y a un vrai renouvellement et là où on sort un peu de cet esprit de groupe affinitaire et où il y a beaucoup de monde qui nous rejoignent et qui sont issus de cultures politiques différentes. On a aussi beaucoup de gens qui ont... Saint-Étienne est devenu à un moment donné une sorte de... pas d'Eldorado politique, c'est pas vrai. Mais il y a plein de gens qui sont venus parce que Saint-Étienne, c'était Saint-Étienne. Et bon, la réputation, je pense, qu'avait la ville. Et du coup, on s'est retrouvé avec beaucoup de gens qui venaient d'autres villes et qui sont venus, on va dire, gonfler les rangs militantes un peu à Saint-Étienne.
Et là, je pense qu'il y a eu une ouverture. Populaire.
C'est ça, ouais. C'est pas cher.
Ouais, c'est pas cher.
Mais c'est pas cher. Et voilà, il y a Geoffroy Guichard. Et là, c'est là où je pense qu'il y a vraiment eu un vrai renouvellement qui a été fait au niveau du comité et une autre manière de militer avec un dynamisme peut-être beaucoup plus important.
Thomas, du coup, ton expérience d'arriver au comité dans cette période-là, justement, dont parlait Eddy.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. En fait, quand je rentre dans le comité, j'ai pas l'impression d'entrer dans un groupe politique vraiment dur où il faut avoir tous les codes, toutes les refs pour pouvoir comprendre les discussions, puisqu'on se trouve avec plein de gens différents. Et ça se voit dans notre façon de militer, c'est qu'on fait plein de choses, parce qu'effectivement, on n'a pas trop de présence d'extrême droite à Saint-Étienne, donc ça nous laisse la possibilité d'écrire, de faire du contenu, de faire des films, on va sur un documentaire sur l'antifascisme, d'organiser des conférences, et en fait, n'importe qui, en gros, qui a envie ou qui a déjà des connexions ou des connaissances, peut s'impliquer dedans. Moi, je suis plus dans le milieu, on va dire, cinéma, et du coup, j'ai pu arriver dans le comité et dire, moi, en fait, j'ai le goût de faire de l'image, de faire des films et tout, et on m'a jamais mis une porte ou quoi que ce soit, on m'a laissé faire, on m'a fait confiance. Et c'est le cas de plein d'autres gens qui ont eu envie de s'investir, sans forcément arriver avec des bagages politiques. Et l'autre truc aussi que je voulais dire quand même, puisqu'on dit toujours il n'y a pas de présence de l'extrême droite à Saint-Étienne, mais c'est aussi qu'on fait le taf, pas que nous, mais...
Ouais, on fait de la veille notamment.
Ouais, voilà, il y a ce truc quand même qu'on dit souvent que le combat antifascisme il est ingrat, parce que si on fait bien notre boulot, on ne le voit pas concrètement. Et à Saint-Étienne, il y a quand même ce truc où nous, d'autres collectifs, le fait qu'il y ait les Greens, etc., donc les supporters de Saint-Étienne, on continue aussi à créer un terreau totalement infertile pour l'extrême droite. Il y a quand même cette veille et on fait le boulot, enfin, tous ensemble, de couper les ambitions de n'importe quel groupe qui veut se monter, parce que ça existe, il y a quand même au fil des années des groupes qui essayent de... Saint-Étienne, ça reste quand même une ville importante. À la limite, c'est aussi une cible pour l'extrême droite, je pense, de se dire on est capable d'investir dans une ville populaire à côté de Lyon et tout, qui a un gros passif antifasciste. Donc on a ce truc-là aussi à protéger, quoi.
Reconquête, par exemple, ils ont un peu essayé de s'implanter vers 2021-2022, non?
Ouais, ils ont tenté de s'implanter, mais c'était assez compliqué parce que du coup, on s'est retrouvés... moi, je me suis retrouvé en procès à cause de notamment. Mais ouais, ils ont essayé de s'implanter, ils ont essayé d'utiliser un narratif sur la ville de Saint-Étienne, mais ça n'a pas du tout pris, ça n'a pas du tout marché. Ils ont surfé un peu sur ce qui s'est passé dans le tour Reconquête Nationale, avec l'élan médiatique et la poussée médiatique plutôt qu'avait Zemmour. Ils ont tenté d'en profiter, ils ont tenté de se mettre en avant, et ça n'a pas du tout marché. Enfin, je crois qu'ils ont complètement floppé. Aux dernières municipales aussi, par exemple, le RN fait 9%. Donc évidemment, après, on est en 2020, mais je crois que le confinement n'a pas démarré pour le premier tour, il me semble. Et voilà, il y a 9% au RN. Alors évidemment, il y a des dynamiques nationales qui, à laquelle on n'échappera pas. Les européennes, ils sont arrivés en tête. Mais le deuxième, c'était l'AFI, donc à 0,3%. Mais voilà, il y a une culture de l'extrême droite qui n'existe pas à Saint-Etienne. Et on parlait de questions de narratif et tout ça. Pour nous, ça, c'est ultra important. Le narratif de Saint-Etienne, il n'est vraiment pas compatible avec le narratif de l'extrême droite. On est une terre d'immigration, on a été bercé par tout ça, on a été libéré par les résistants et notamment par l'armée d'Afrique qui a déboulé à Saint-Etienne, enfin qui est passé par Saint-Etienne en tout cas. Non, vraiment, le narratif construit par l'extrême droite, il est incompatible et c'est pour ça que c'est assez terrible. Quand on entend, quand on a pu entendre Reconquête ou le RN, il faut débarrasser Saint-Etienne de... Débarrasser Saint-Etienne de vous, cassez-vous, c'est terrible.
Donc vous essayez un peu de vous inscrire aussi dans ce récit de la ville sur elle-même, qui est voilà, une ville multiculturelle, une ville d'immigration, une ville ouvrière. Je comprends ça, en fait.
Mais par contre, comme le disait Thomas, effectivement... C'est pas à négliger non plus le fait qu'ils tentent quand même et qu'on a, enfin, il y a quand même du taf de ce côté-là à Saint-Etienne, enfin, Action française. Ça fait plusieurs années qu'ils essayent de s'implanter. Ils ont pas pignon sur rue du tout, mais c'est ce qu'ils tentent d'avoir. Et ça demande quand même une vigilance quotidienne, enfin, régulière, en tout cas, beaucoup d'implication. L'Uni, les étudiants, là, par exemple, ils ont pris pas mal de place ces dernières années qu'ils avaient moins les années précédentes. Alors après, ça fait des phases. La banalisation de l'extrême droite pourrait expliquer le fait qu'ils ont peut-être plus de visibilité à Saint-Etienne aussi aujourd'hui. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est sûr que c'est pas non plus idyllique à Saint-Etienne. Enfin, c'est pas un terrain propice pour l'extrême droite, mais en tout cas, il y a quand même des groupuscules qui essayent de s'implanter, quoi. Et ça demande aussi un travail militant au comité. On fait beaucoup de... Moi, ce que j'appelle l'antifascisme culturel, des conférences, du contenu écrit, du contenu sur les réseaux. Mais il y a quand même aussi un travail de surveillance, enfin de... Voilà.
Ouais, de veille et de surveillance activités de l'extrême droite. Mmh. Et alors, en vue des municipales de 2026 à Saint-Etienne, il y a une initiative qui s'est créée. C'est pas le comité Antifa, mais il y a notamment Eddy du comité Antifa qui est partie prenante de cette initiative, qui s'appelle Saint-Etienne Populaire. Alors, ça vise quoi et vous en êtes où ?
Un peu fort du constat là, qu'on disait là, depuis tout à l'heure sur la question de Saint-Etienne, cette ville un peu de réseau et tout ça. C'est nous, on a toujours été historiquement dirigés par des municipalités de droite et du centre, presque toujours, à part un mandat de Maurice Vincent qui était social-démocrate, voire social-libéral, et un mandat surtout de Joseph Sangdols, qui du coup était un militant communiste, résistant, etc. Et à part ça, ça a toujours été la droite et le centre. Et en fait, on n'a jamais eu un exécutif municipal à l'image, pour le coup, de la ville et de ses habitants. Et en vrai, on le subit tous les jours, c'est-à-dire on a défoncé les services publics, on a privatisé la question de l'eau, on a mis énormément d'argent sur énormément de grands projets dont on n'a absolument rien à faire. On a défoncé le centre-ville, enfin, c'est assez terrible. On a créé une ville de pôle pour faire en sorte que Saint-Etienne soit à terme une ville dortoir qui appartienne au Grand Lyon. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a été quelques-uns militants depuis des années à se dire, en fait, il faut qu'on arrive à construire quelque chose d'autre. Et aussi casser, pareil, toujours sur des questions de narratif, mais c'est ultra important, mais c'est quand on parle de victoire un peu inéluctable de l'extrême droite. Alors évidemment, à l'échelle nationale, c'est compliqué. Il y a une construction qui est ultra difficile à défaire. Mais par contre, à l'échelle locale, là, il y a quelque chose à faire. Et en fait, on s'est dit, là où on arrivera à faire bouger les choses, c'est à partir du moment où on arrivera à vraiment changer notre vie de tous les jours. Et en fait, on parle de sortir les poubelles, en fait, concrètement. On parle de dire à quelle place en crèche on va avoir et tout ça. Et du coup, on a construit une initiative, Saint-Etienne Populaire, donc avec des militants un peu de partout, mais pas que des militants, aussi des gens qui sont des néo-militants, des gens qui commencent à militer. Et alors, évidemment, du point de vue de l'antifascisme, c'est pour casser cette montée-là et cette inéluctabilité, on va dire. Mais du point de vue, en fait, concret, c'est d'arriver à construire des villes différentes. Et en fait, c'est une sorte de groupe inspiré des réseaux municipalistes, du communisme municipal, du communalisme, etc. On peut parler de plein de références, Saillant, le Rojava, etc. Et l'idée, c'est d'avoir une ville où les schémas de gouvernance sont différents, où les élus sont pas non plus des hommes et des femmes providentiels, et où en fait on arrive à permettre aux Stéphanois et aux Stéphanoises en fait d'arriver à prendre des décisions. Parce qu'en fait, on peut être acteur de nos vies, on peut être acteur de notre ville, et on peut être tout ça.
Parce que d'une certaine manière, l'extrême droite se construit aussi sur le sentiment que les gens ont d'être impuissants face à ce qui se passe, quoi.
Bah complètement. Et c'est là où en fait c'était ultra intéressant et c'était ultra important de dire. En fait, à partir du moment où on arrive à reprendre ce lead-là et ce truc-là, on peut faire des choses merveilleuses. Et c'est pareil, après l'idée c'est, je recite Raphaël Arnaud parce que dans ton dernier podcast il avait dit, l'idée c'est pas de dire on va arriver, on promet de grandes choses, etc. Non, en vrai en plus une municipalité c'est endetté au possible et tout ça, mais c'est par contre sincèrement il y a des leviers de mobilisation qui sont importants et en fait on peut construire quelque chose de politiquement très fort et en plus ça peut avoir un impact. Et puis parce que Saint-Étienne c'est une ville suffisamment petite pour que ça soit possible, mais aussi suffisamment grande pour que ça ait de l'importance, et c'est ça qui est important en tout cas à Saint-Étienne populaire.
Super. En tout cas, merci beaucoup à vous trois. Je pense que c'était un épisode très enrichissant sur qu'est-ce que c'est qu'être militant antifasciste aujourd'hui. On voit que c'est pas ce que disent les médias, mais c'est pas que non plus de la réaction à ce que fait l'extrême droite. C'est beaucoup d'autres choses. On a parlé des brigades de solidarité, on a parlé pour finir de Saint-Étienne populaire, mais y compris d'autres choses, les aspects culturels, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et surtout peut-être la nécessité de l'antifascisme. Merci beaucoup. Because good is not important and work is not important. Nothing more important than stopping fascism. Because fascism will stop us all. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti, oh ciudad. Spectre.